Évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Au nom de Jésus. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre de devant l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Celui qu'on a cloué sur la croix, il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici, regardez. Voici l'endroit où on l'avait mis. Allez maintenant. » Et dites à ses disciples, y compris Pierre, il ira vous attendre en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et remplies de crainte, et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Amen. Comme tout à l'heure, nous avons suivi l'histoire de Marie Magdala. Essayons aussi, imaginons un peu la scène au tombeau, ce jour de résurrection. Dès le premier verset, nous pouvons voir le temps qui est donné par l'auteur sur l'empressement, comme Véronique nous l'a montré, l'empressement des femmes qui attendaient juste que le sabbat passe. Et de très bon matin, les voilà en première ligne, les femmes en première ligne, vers le tombeau de Jésus, avec un cœur encore tout attristé. Et regardez l'évolution de l'émotion, le changement des émotions. D'abord un cœur lourd, triste, en deuil. Et pris par l'émotion, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent de l'huile parfumée et s'en allèrent au tombeau. Elles étaient encore sous le choc de l'émotion, et elles avaient complètement oublié, tellement quand on est dans le deuil, elles avaient complètement oublié qui va rouler la pierre. Elles auraient pu dire, allez Pierre, viens avec nous, ou Jean, vous pouvez nous aider, mais avec leur cœur, elles sont parties. Une fois arrivées au tombeau, c'est là qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne pourraient même pas effectuer ce qu'elles envisageaient de faire. L'objectif principal de ces femmes, c'est au moins apaiser leur peine, au moins apaiser leur tristesse en conservant le plus longtemps possible le corps. Comment on fait pour conserver le corps de Jésus le plus longtemps possible? À vrai dire, elles n'ont pas encore fait leur deuil. Et nous savons, par exemple, dans l'histoire du monde, certaines personnalités célèbres, après leur mort, on a tout fait pour garder intact leur corps, comme celui de Lénine. Comme ça, on ne les oublie pas. Et c'est un peu la même chose ici, dans le texte. Rien que quelques jours après la mort de Jésus, le premier réflexe de ces premiers fans, je dis bien ces fans, ils se précipitaient déjà pour s'occuper de sa tombe. Un peu comme une star qui est décédée, tout de suite, tout le monde autour de la tombe pour mettre des fleurs, pour bien préserver le lieu. Un peu à l'image des cimetières des stars, comme celui d'Elvis Presley. Chaque année, savez-vous, des fans inconditionnels qui viennent du monde entier se recueillir devant sa tombe et organisent même des veillées. Étonnamment, jusqu'aujourd'hui. Non, chers amis, Jésus ne veut pas qu'on vienne devant sa tombe pour y pleurer. Non, il ne veut pas de cela. Il vient même pas, il ne veut même pas qu'on se souvienne de lui, de ce qu'il a fait. Non. Et de faire son tombeau comme un musée. Même si aujourd'hui, malheureusement, des millions de touristes partent à Jérusalem, en Israël, juste pour se recueillir devant la tombe de Jésus, apportant même les tissus de ses familles malades. Vous voyez ça à la télé chaque année. Non, Jésus ne veut pas de ça. Quand on est face à la mort, symbolisée ici par le tombeau, tout de suite on est un peu, je ne sais pas, mais à chaque enterrement, on est soumis à la loi du temps, le passé, le présent et le futur. Tout à coup, en une fraction de seconde, cette notion du temps est devant nous. On se souvient de la vie de cette personne, 60 ans passés, son présent et notre futur à nous. Quelle sera ma vie sans cette personne? Et l'évangile de Marc nous montre d'ailleurs cela, que le Christ est intemporel parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors nous pouvons ressentir ici la grande tristesse de ces femmes, encore grande qu'avant même, parce que au moment où le Christ est décédé, pour atténuer leur peine, elles espéraient qu'au moins elles auraient le corps, au moins elles auraient le corps de Jésus tout près d'eux. Du moins dans un tombeau bien défini. Mais même cela, on les a privés de ça. C'est un peu à l'image des personnes, rappelez-vous, qui ont perdu des familles lors du crash de Germanwings. Beaucoup n'ont même pas retrouvé le corps de leur famille. Et pour aider les familles à faire leur deuil, tout près du village où le crash se passait, on avait érigé une stèle de commémoration où des familles pouvaient venir chaque année se recueillir en guise de tombeau de substitution. Oui, l'homme a besoin d'être rattaché à un lieu pour faire son deuil, pour essayer de faire disparaître son mal, sa tristesse. Et c'est un peu paradoxal, mais nous fonctionnons comme cela. Or, ici dans le texte, si nous lisons bien la parole des anges vis-à-vis des femmes, justement, il les renvoie loin du tombeau. Non, il n'est pas ici. Et c'est important cette phrase de l'ange. Il n'est plus ici. En d'autres termes, ce n'est pas dans ce genre de lieu que vous allez trouver le Christ. Sortez de ce lieu. Il n'est plus ici. Identifier le Christ à un lieu, c'est en quelque sorte momifier le Christ. L'enfermer dans nos temples, l'enfermer dans nos idées, enfermer le Christ dans nos concepts. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Et là, nous pouvons constater qu'après la résurrection, nous pouvons voir qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas être contenu dans un local ou dans un endroit. Tout à coup, il était au milieu, dans une pièce fermée. Et la preuve, lors de ses apparitions, Jésus pouvait entrer dans une pièce qui était fermée. Il pouvait être tout à coup en chemin avec ses disciples, apparaître dans le jardin. Voilà le Christ ressuscité, un Christ qui n'est pas enfermé. À chaque Pâques, nous proclamons que Christ est ressuscité. Et c'est très bien. Mais pour nous, aujourd'hui, cela veut dire quoi? Cela signifie que nous ne pouvons pas le contenir à nous tout seuls. Dans notre temple, dans notre communauté, dans notre famille. Oui, il est vrai que le Christ, comme je l'ai dit pendant le culte, ne s'est pas apparu à Pilate, à ses détracteurs. Il a choisi de se révéler à ses apôtres. Si nous étions à la place du Christ, je suis sûr et certain, la première chose que vous allez faire, allez, je vais me montrer à Pilate comme ça, il va devenir fou. Me voici, alors, qu'est-ce que t'en penses? La vengeance sera terrible. Ensuite, vers Caïphe. Caïphe, viens par ici. Ah, un fantôme, attention. Mais le Christ ne l'a pas fait. Vous voyez, jusqu'au bout, il n'a pas eu cet esprit de vengeance. Il s'est révélé qu'au sien. Et ça, c'est très important. Avant la résurrection, tout le monde pouvait voir Jésus. Mais après la résurrection, seuls ses disciples l'avaient vu. Ça marque un point essentiel. Mais la façon dont cette nouvelle a circulé, vous voyez, c'était plus efficace même que de se montrer. Ça a propagé dans toute la ville. Tout le monde parlait de cela. Et celui ou celle qui a su qu'il est réellement ressuscité, il ne pouvait pas le garder pour lui jusqu'aujourd'hui. La bonne nouvelle, chers amis, c'est à la fois le Christ ressuscité, parce que le tombeau ne pouvait pas le retenir, mais aussi la bonne nouvelle, le message de la résurrection. C'est ça la bonne nouvelle, ce message qui change les cœurs. La bonne nouvelle, rien que dans le nom, bonne nouvelle, ça veut dire à proclamer, à partager. Le message sur le Christ ressuscité n'est pas un message parmi tant d'autres comme une thématique, mais c'est vraiment le message. Si on peut tout enlever dans la Bible, seul le récit de la résurrection qu'on peut retenir. C'est le noyau de la Bible. C'est le cœur de l'Évangile. Comme Paul le crie haut et fort, si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher. L'Église n'aurait pas existé. Même si certaines églises commencent à douter de la résurrection de Jésus. Et tout compte fait, c'est quoi la bonne nouvelle de Pâques? La foi pascale est toujours fondée par le verbe voir. Christ a été vu. Elle peut aussi signifier Christ est apparu et s'est fait voir. J'ai vu le Christ. La bonne nouvelle a commencé par là. Tu vas peut-être me dire que tu n'as jamais vu le Christ. Je dirais oui et non. Ce ne sont pas toutes les personnes, je veux répéter cette phrase, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont vu le Christ qui sont les témoins du Christ. Non, sinon même ces détracteurs seraient aussi des témoins. Mais les vrais témoins de Jésus-Christ sont ceux et celles qui l'ont vu après sa résurrection. Voir le Christ ressuscité, tel est le vrai témoin. Et il est très important de préciser le Christ ressuscité, parce que à partir de là, qu'il s'est révélé dans sa plénitude comme étant le Dieu qui est en dehors du temps et de l'espace. Rappelons-nous de ce que nous déclarons dans notre confession de foi. Tout à l'heure, nous allons le proclamer selon le symbole des apôtres. Il est dit dedans, il est descendu aux enfers. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Mais qu'est-ce que Jésus allait-il faire aux enfers quand vous prononcez cette phrase? Je ne sais pas. Il est descendu aux enfers comme ça, on le fait comme sans réfléchir. Mais il faut se poser, mais qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il n'a pas de choses à faire ou quoi? Le livre de Pierre nous donne une réponse claire dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 et 19. Je vais le lire lentement. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes. Pour les péchés des humains, donc les humains, ceux qui étaient vivants de son époque, les innocents. Il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par la puissance de cet esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés. Il est descendu aux enfers pour proclamer à toutes les personnes qui étaient avant lui que voilà, le Christ est ressuscité. Le Christ est là. Donc tout le monde a entendu le message de la bonne nouvelle. Parfois on se pose des questions, alors qu'en est-il des gens qui étaient avant Jésus? Mais c'est le moment où il est allé dans les séjours des morts pour proclamer qu'il est vivant. Donc nous aussi aujourd'hui, nous pouvons être les témoins de Jésus-Christ, le ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à toi. Il s'est fait voir, sinon nous n'aurions pas cette capacité de croire en lui. Si nous croyons en lui, c'est parce que c'est le Christ qui s'est révélé à nous. Alors à notre tour aussi, comme les apôtres, de se lever et d'aller proclamer autour de nous, nous avons vu le Seigneur. À toi aussi de dire à tes amis, à ta famille, à tes connaissances, tu l'as vu le Christ ressuscité. Amen.